Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est Francesca à l'animation. Il est 19h et vous êtes en direct sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
C'est la dernière de la matinale estivale. Alors quoi de mieux que de vous souhaiter des belles vacances? On se retrouvera à la rentrée en septembre. Mais en attendant, je vais vous confier quelque chose. Hier, j'ai eu 42 ans. Alors, quand on lit partout « être la bonne version de soi, devenir la meilleure version de soi », j'ai eu une petite réflexion que je vous partage. Promis, elle tient en 2 minutes 50. Et je vais en profiter aussi pour répondre à la question qu'on m'a posée hier plus de 50 fois. Je n'exagère pas, ça fait quoi d'avoir 42 ans? Avec les années, avec les rencontres, les doutes, les échecs, les rires, les coups durs, j'ai compris qu'il ne s'agit pas de devenir la meilleure version de soi comme on le lit partout. La meilleure version de soi, c'est celle qu'on ose regarder dans le miroir, celle dont on ose, on aime surtout les pensées parce qu'elles sont belles, les yeux, les regards doux, les rides pour rester humble et sentir que le temps passe, mais notre cœur est toujours bon. Celle où notre cœur est en accord avec nos actes, avec notre regard, avec les autres et le courage d'accueillir l'adversité pour défendre et pour que la justice soit. Avec le temps et un peu de bouteille dans tous les sens du terme, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, j'ose dire ceci, tout est question alors de posture, de relation avec soi d'abord et avec les autres toujours. Oui, nous sommes imparfaits, humains et nos blessures nous façonnent autant que nos joies. Ce qu'on appelle la bonne version, c'est peut-être juste la pureté de notre cœur. C'est facile à dire, hein, moins à faire. C'est cette version de l'être humain qui change le monde, je crois bien. Comme j'aime le répéter aux jeunes en conférence, il n'y a pas de parcours parfait, il n'y a pas d'être parfait, il y a celui qui fait de son mieux pour continuer d'être et d'aimer. La meilleure version de soi, je crois aussi, n'a pas peur d'être vulnérable, déshabillé de son ego et de sa crainte du regard des autres, car il n'y a rien de plus beau que le vrai. Alors à la question, ça fait quoi 42 ans? Bah je réponds, ce n'est plus le commencement, c'est sûr. Et je ne sais pas si c'est le dernier chapitre du coup. Mes chaussures, c'est l'âge où l'on ne cherche plus à prouver, mais à être vraiment intensément et librement. Et croire que, comme chaque année, peut être une naissance à condition de rester vivant de l'intérieur. Et là, vous vous dites vivement, mais 42 ans. Alors, où que vous soyez cet été, sur une plage, en rando ou simplement dans le silence d'un moment à vous, je vous souhaite de vous retrouver un peu ou beaucoup et d'oser vivre à votre rythme, à votre façon, à votre version. Pas la version parfaite, hein, juste la version vivante. Vive la vie, vive l'amour et surtout, vive ce moment précieux qu'on appelle maintenant. Au programme de cette matinale de 19h, à l'interview avec Clémence Badeau, journaliste et co-autrice du livre Le silence de Bétarame, avec Alain Escar comme sujet, Affaire Bétarame, rapport d'enquête sur les violences en milieu scolaire, et ce sera avec Marius. Le tour de l'actualité avec Rania. Pour les Zooms, ce sera Marius aussi avec l'association Rebond. Le groupe local de Bois d'Arcy sera avec nous, avec la présence de deux référentes. Le deuxième Zoom, ce sera Anaïs pour les 10 ans du festival Beat and Beer, avec notre invitée Ophélie Lodoisk, chargée de communication des relations presse pour l'édition 2025 du festival. En chronique actu, ce sera Fabien. Et enfin, nous terminerons avec un peu, beaucoup d'humour avec Gauthier. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Tout de suite, c'est l'interview de Marius avec notre invitée Clémence Badeau. Bonsoir Clémence.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors, avec plaisir.
Je vous en prie. Alors, vous êtes journaliste et co-autrice avec Alain Esquer de cet ouvrage, Le silence de Bétarame. Et ce sera donc Marius qui va mener l'interview avec moi.
Bonsoir, Marius. Ouvrage, bonsoir. Ouvrage paru le 24 avril dernier, important à préciser. Et donc, c'est monsieur Alain Esquer, ancien élève de l'institution catholique Notre-Dame de Bétarame et lanceur d'alerte de l'affaire, qui vous accompagne dans la rédaction de cet ouvrage. Bon, bien sûr, on va parler de tout ce qui fait l'actualité en ce moment avec le rapport. Mais avant tout ça, J'aimerais vous poser comme question, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre et comment cette enquête s'est-elle construite ?
Alors en fait, moi je suis journaliste télé à la base et donc je travaillais sur un projet de documentaire télévisuel avec Alain Esquer depuis le mois de juillet de l'année dernière. Donc ça fait plus d'un an déjà qu'on travaille ensemble. Mais Alain, lui, il avait vraiment à cœur d'écrire un livre. Et donc régulièrement, il me disait « Clémence, le projet documentaire c'est bien, mais le bouquin ». Et le 1er janvier 2025, on s'est échangé les vœux et il m'a dit « Clémence, le bouquin ». Et puis il se trouve que mon mari écrit des thrillers historiques, donc j'ai quelques connaissances dans le milieu d'édition et donc j'ai contacté Michel Lafon, puisque je connaissais très bien un des éditeurs de chez Michel Lafon. Et il m'a dit « Écoute, je me souviens, je lui ai dit « J'ai un spotlight à la française » en référence au film américain qui dévoile ces affaires de pédophilie dans lesquelles trempent plusieurs évêques à Boston. Et je lui ai dit « Ouais, j'ai une affaire de spotlight à la française à te pitcher. Je pense que ça peut vous intéresser. » Il faut savoir que le 5 janvier, quand je l'appelle, personne ne connaît Betaram. Il n'y a pas encore eu cette déflagration du 6 février avec les questions de Paul Vanier à l'Assemblée nationale et puis surtout les articles de Mediapart et l'implication, l'intrication de François Bayrou. Mais eux, chez Michel Lafon, ils m'ont quand même dit le 5 janvier, ouais, ça nous branche, il y a quelque chose, c'est dingue, on est intéressé, on veut faire quelque chose. Et puis ils nous ont rappelé après les articles de Mediapart, en disant bah « Alors non seulement on veut faire un truc, mais on voudrait que ça sorte dans 6 semaines. » Voilà, donc là, c'était le branle-bas de combat pour sortir le livre avec Alain Esquer et puis Tiffaine Piogier, qui du coup nous a aidés à le rédiger, parce que ça aurait été compliqué pour nous de tout rédiger, de tout mettre en ordre, tellement c'est tentaculaire, en fait, comme affaire.
6 semaines, c'est short. Hein.
Justement, quels sont les témoignages ou les moments forts, en tout cas, dans cette rédaction qui vous ont plus marqué ?
En fait, vous avez utilisé le mot témoignage, et c'est ça, c'est la vie de ces hommes qui ont aujourd'hui, pour la plupart, 50 ans, parce que les faits les plus... Voilà, il y a une décennie vraiment terrible où il y a le plus de victimes, qui est les décennies des années 90, donc sont aujourd'hui des hommes de 50 ans, à peu près, hein, 50-60 ans, quoi, qui parfois, alors soit sont très cabossés par la vie, donc il y a beaucoup d'addictions, il y a eu beaucoup de suicide autour de Betaram, il y a beaucoup de dépression, il y a des hommes qui n'ont pas pu se réparer en fait de ce qu'ils ont vécu, et il y en a d'autres qui ont réussi, bon an, mal an, à construire une famille, à avoir un job, qui sont des hommes voilà, mûrs, et c'est vrai que moi j'ai été très touchée par leur fragilité encore aujourd'hui, par ce traumatisme qui est comme une plaie béante qu'ils ont transporté toutes ces années avec eux et dont ils n'ont pas réussi à se remettre parce qu'ils n'ont pas pu en parler, parce que souvent les hommes que j'ai rencontrés, parfois c'était la première fois, j'étais la première personne à qui ils se confiaient. Certains n'en avaient même pas parlé à leur épouse ou à leurs enfants. Et j'étais la première personne à qui ils osaient dire, en fait, 40 ans après, ce qu'ils avaient vécu.
Est-ce que vous ressentez une sorte de délivrance quand ils vous le disent dans vos témoignages, de leur côté ?
Oui, oui. Je crois que le fait de parler oui, je pense qu'il dépose quelque chose. Voilà, ça répare pas tout. Mais en tout cas, il dépose quelque chose. Ce qui les a beaucoup aidés aussi, et ça, c'était un peu la magie du groupe Facebook créé par Alain Esquer, c'est de ne plus se sentir seul. Les victimes de violences sexuelles à Betaram étaient toutes convaincues d'être l'unique et la seule victime de leur agresseur, parce qu'ils n'en parlaient jamais entre eux. Parce qu'à Betaram, la loi, c'était le silence. Il faut savoir que c'était un établissement où on n'avait pas le droit de parler en dehors des récréations, d'une récréation le matin, je crois. Et après, le soir, pour les internes, à partir de 18h, 19h, on n'avait plus le droit d'échanger un mot. Et si vous parliez dans le dortoir, par exemple, eh bien, vous vous retrouviez sur le perron, en caleçon, parfois par moins 5 degrés, à attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. On a l'exemple de Marc, hein, qui a failli perdre ses 4 membres d'hypothermie parce qu'il a été laissé 3 heures sur le éperon en bordure du gaffe de Pau parce qu'il avait échangé trois mots et cassé un verre à la cantine, quoi. C'est hallucinant d'avoir ce type de témoignage. On a l'impression, en fait, quand on les écoute, qu'ils ont vécu au Moyen-Âge, quoi. Vraiment, on se dit que ce n'est pas possible parce que... bon, j'ai entendu que vous aviez eu 42 ans, donc les années 90, c'est pas si loin. Non, mais c'est pas si loin, c'est pas au siècle dernier. Enfin, si, c'est OK, c'est au siècle dernier, mais on n'est pas... Enfin, voilà, c'est quand même... C'est hier, quoi. Et je trouve que c'est fou. On a l'impression qu'ils ont vécu à une autre époque, vraiment.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, vous me parlez de ces messieurs donc, qui ont subi ces violences en 1990, un peu plus d'ailleurs, et vous avez appris pendant la rédaction, ou vous savez déjà, avant que ce soit vraiment médiatique, que la mécanique perdurait. Parce que vous mettez en lumière donc, la loi du silence des collectifs, justement. Comment vous avez accueilli justement que ce mécanisme fonctionnait encore pendant des décennies, mais encore après ?
Ben, ça, on le savait avant la rédaction. Nous, en D'accord. fait, c'est surtout Alain. Alain, il a lancé le groupe Facebook 18 mois avant. Il avait commencé à recueillir des témoignages. Alors, au départ, il n'y avait pas beaucoup de témoignages. Et puis, tout d'un coup, parce que le poids du silence, c'est lourd. Hein, c'est difficile de se débarrasser de tout ça et d'oser briser l'omerta. Et puis, il a commencé à avoir quand même quelques témoignages parce qu'il alimentait aussi ce groupe Facebook. Il allait, par exemple, prendre des photos, des bâtiments. Il essayait en fait de réveiller les gens et de leur dire, mais il se disait, c'est pas possible, je suis pas le seul à avoir vécu ça. Il savait très bien qu'il y en avait d'autres. Alors il a commencé à recueillir comme ça les témoignages des violences physiques, des bouffes, parce que là-bas on n'appelle pas ça des baffes, on appelle ça des bouffes, le supplice du perron, voilà, toutes ces choses innommables que les enfants vivaient. Et puis, quelques mois plus tard, pas tout de suite, il a eu le premier témoignage d'Alexandre sur les violences sexuelles. Et en fait, il ne s'y attendait pas du tout. Lui, il pensait que c'était que des violences physiques, des humiliations, des brimades, etc. Il ne s'attendait pas au volet terrifiant des violences sexuelles. Et ça a été très difficile, ce premier témoignage. Il le raconte très bien dans le chapitre sur Alexandre qu'il rédige dans le livre, et où il explique qu'en fait, il prend ça un peu en pleine face. Et puis, ce témoignage d'un viol sous une tente lors d'un camp scout par un surveillant de Bétarame va tourner dans sa tête encore et encore. Et que c'est là qu'il va comprendre le sens de son combat. Mais il n'était pas préparé vraiment à tout ça, en fait. Pour lui aussi, c'était difficile d'entendre ça au départ, puisqu'il ne s'y attendait pas. Et c'est comme ça qu'il va découvrir ce qu'il appelle ce continent de violences physiques et sexuelles qui commence dans les années 50, hein, pour s'achever au début des années 2000 ou même 2010, et qui est vraiment un continent, puisqu'il va de manière très rationnelle tout noter, faire des tableaux de victimes, de damnés, etc. Et on va arriver à 60 ans de prédation, à 30 auteurs d'agression physique et sexuelle. Il y en a qui sont que des agresseurs physiques, hein, mais voilà. Et à 203 plaintes aujourd'hui, on en a même 17 qu'on va bientôt déposer, donc on sera à 220 plaintes, sachant que vous pouvez multiplier ce chiffre aisément par 2 ou par 3, parce qu'il y a des gens qui n'arriveront jamais, qui n'ont pas la possibilité de briser encore cette omerta, qui ne franchiront pas le pas, parce que c'est se mettre en danger aussi de parler, c'est se mettre en danger de revivre tout ça face à un officier de police judiciaire, voilà, de s'exposer. Ben, il faut avoir énormément de courage pour le faire, surtout quand on a construit une vie, qu'on a une famille. Est-ce qu'on prend le risque de réveiller tout ça, de réouvrir cette boîte de Pandore? Voilà, certains le font avec énormément de courage. Pour d'autres, je crois que ça sera difficile et peut-être qu'ils resteront dans le silence.
D'accord. Alors Clémence, on va faire une petite pause musicale et on vous retrouve juste après. D'accord.
Ça marche.
Alors on écoute tout de suite Low Joe avec le titre Encore.
Je suis rentré dans son cœur, je vois dans ses yeux. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dormi. Je tape sur mes mélos dans les rues de ma ville. Paris c'est chaud, Paris c'est trop magique. Bébé me dit qu'elle voudrait rentrer dans ma vie. Je sais qu'elle n'a jamais connu un gars comme moi. Je pourrais te faire du sale si tu t'attaches à mort. Elle kiffe mon côté mauvais, bah je suis propre sur moi. Elle c'est ma jolie garce. Damn. J'aime trop la team à côté, c'est range. C'est à moi, faut pas mélanger. Ce soir, on va déranger les voisins. Elle voudrait que je l'emmène loin de panne. Je crois que je suis rentré dans son cœur. Je le vois dans ses yeux. Je crois que je vais tout gâcher encore. Gâcher encore, gâcher encore. Si tu me suis, on va se cracher encore. Cracher encore, cracher encore. Yeah, yeah, yeah. Je te l'avais dit. J'suis pas un gars pour toi, mais quand on le fait à fond, c'est pour le vrai. Yeah, maintenant tu m'évites. J't'ai prévenu que j'te ferais du mal et tu m'en veux pas. Je sais pas dire non, car ton petit cœur m'appartient. Quand c'est toxique, là c'est tellement bon, 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 moi. Dis-moi quand t'es dérangé. C'est à moi, faut pas mélanger. Ce soir, on fera déranger les voisins. Elle voudrait que j'emmène loin de Paris. Je crois que je suis rentré dans son cœur. Je le vois dans ses yeux. Je crois que je vais tout gâcher encore. Gâcher encore, gâcher encore. Si tu me suis, on va se cracher encore.
Alors, c'était donc le titre encore avec l'artiste Low J. Et tout de suite, on retrouve l'interview. Et c'est avec Clémence Badaud et Marius.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Rebonjour. Alors, on a parlé beaucoup de votre livre et des témoignages que vous avez apportés. Maintenant, j'aimerais revenir sur un sujet d'actualité d'importance qui est le rapport d'enquête sur les violences en milieu scolaire. Donc, ça a été rendu en public ce mercredi 2 juillet. Ici, deux députés proposent 50 recommandations pour lutter contre les violences en milieu scolaire, avec notamment la reconnaissance officielle des victimes ou encore la publication annuelle de statistiques sur les violences. Est-ce que vous vous sentez plutôt optimiste vis-à-vis de ces recommandations ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux députés ont fait un travail colossal. Ils ont entendu 135 personnes. Ils ont pris vraiment ce sujet à bras-le-corps. Ils ont fait un boulot exceptionnel. C'est un peu fou de se dire qu'il fallait attendre le scandale de Bédarame pour le faire. Mais ce travail, il a été fait. Les conclusions, elles me semblent tout à fait adéquates. Elles répondent vraiment à nos attentes. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on se dit il va falloir des moyens, quoi, parce que tout ce qu'ils ont préconisé, ça ne va pas se faire sans moyens. Alors, est-ce que l'État va vraiment dégager les moyens financiers nécessaires ? Est-ce que la protection des enfants va devenir une priorité nationale ? Moi, je me pose encore la question, parce qu'il y a eu la publication du rapport, mais pour l'instant, on n'a pas vu se mettre vraiment en ordre de marche un changement significatif. Je sais que Constance Bertrand, qui elle, fait partie d'un autre collectif des élèves de Saint-Dominique de Neuilly, avait interpellé les députés et elle leur avait dit « c'est le jour 1 ». Mais il faut continuer, il faut le jour 2, il faut le jour 3. Et ben voilà, ben moi je suis exactement dans cet état d'esprit-là, d'attente, d'observation, d'espoir. Mais j'espère que l'espoir ne sera pas déçu.
Et surtout que l'État a quand même été jugé comme défaillant dans le rapport.
En particulier pour Bétarame. Il faut savoir qu'à Bétarame, il n'y a eu qu'une seule inspection académique dans toute l'histoire de Bétarame. C'était en 1996, après une première affaire qui a éclaté suite à une gifle donnée par un surveillant, où les parents du petit Marc ont porté plainte, où le surveillant a donc été condamné, et où François Bayrou, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, a effectivement commandé un rapport de l'inspection académique, rapport qui a été fait en dépit du bon sens, puisque même le rédacteur aujourd'hui le reconnaît. Donc il a passé 4 heures dans l'établissement, il a rencontré 2-3 élèves qui étaient choisis des délégués, et il a pondu 3 pages pour dire que tout allait bien. C'est quand même fou. Et ça, c'est très systémique, et ça soulève le problème des établissements privés qui, jusqu'à présent, ont été laissés vraiment un peu en roue libre et où l'État n'a absolument pas joué son rôle de garde-fou, de surveillance. Donc c'est ce rapport, en tout cas, il met ça vraiment en lumière, les dysfonctionnements structurels, l'absence de l'État, notamment dans ces internats catholiques, puisqu'il faut savoir que les internats, c'est là où il y a le plus de violences physiques et sexuelles. Hein, à Bétharram, y compris les élèves qui n'étaient pas internes, ont pu échapper, pas à la violence physique, mais en tout cas à la violence sexuelle.
J'ai quand même l'impression que le fait que la fille du Premier ministre ait témoigné, j'ai l'impression que ça a quand même changé un petit peu justement la donne médiatique et politique. Comme vous dites tout à l'heure, il fallait qu'il y ait cette histoire qui explose pour qu'on fasse quelque chose pour les institutions. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que l'histoire, elle explose avec les articles de Mediapart et le fait que le Premier ministre François Bayrou se retrouve un peu sur le devant de la scène. Mmh. Évidemment, le témoignage de sa fille, il est très important. Elle a énormément de courage, Hélène, parce qu'elle est une victime, mais elle est aussi la fille du Premier ministre. Et effectivement, elle va donner un écho très important. Elle va être le visage des victimes aussi. Et encore une fois, moi, je ne peux que saluer le courage de cette femme, parce que qu'est-ce qu'elle nous explique ? Elle nous explique que même en étant fille de ministre à l'époque, elle n'a pas été capable d'en parler dans sa propre famille. On peut imaginer qu'elle avait quand même, elle, les ressources, les outils, l'attention. Eh bien non. Mmh. Et puis elle explique aussi le déni collectif, le déni des élèves, le déni des professeurs, le déni de l'infirmière scolaire, l'omerta de la congrégation, l'omerta des politiques, l'omerta de tous finalement, le déni collectif qui est... Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui, c'est la responsabilité de chacun, c'est la chaîne des responsabilités.
Et alors depuis le rapport, mais aussi enfin, entre la sortie du livre et le rapport qui est sorti récemment, quelles ont été les réactions justement des victimes, si vous avez eu des retours depuis le 2 juillet par exemple ?
Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le travail a été fourni, mais qu'on est dans cet état d'attente, en fait. C'est très compliqué pour les victimes. Je me demande si parfois elles ne se sentent pas un peu abandonnées, pas assez entendues. On n'a pas parlé du problème de la prescription, mais qui est central aussi dans cette affaire. Il faut savoir que le surveillant qu'on surnomme Cheval et qui est visé par 103 plaintes est aujourd'hui en liberté à cause de la prescription. C'est intolérable. Il faut aussi que les lois et que la justice, elles changent. Quand on a 103 plaintes, on ne peut pas être protégé par la prescription. Les années ne peuvent pas vous protéger. Et ça, c'est très compliqué pour les victimes qui osent dénoncer, qui prennent, elles, ce risque de se mettre en avant, de faire exploser peut-être leur famille, etc. Et de savoir que leur agresseur, lui, eh bien, à l'heure qu'il est, il est peut-être en train de siroter un verre sur le port de Vannes en Bretagne. C'est complexe, quoi. Donc moi, je pense que, en tout cas pour moi, la chose qui doit bouger en premier, c'est cette prescription qui doit sauter dans les cas de violence sexuelle sur mineurs, parce qu'elle ne respecte pas la psychologie des enfants. Les enfants, quand il leur arrive ça, ils se cadenassent dans le silence et ils parlent parfois 30, 40, 50 ans après parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Moi, je sais que j'ai rencontré deux frères de 72 et 73 ans, victimes du même prêtre agresseur, qui osaient s'en parler l'un à l'autre à l'âge de 40 ans. Alors que ce sont comme deux frères jumeaux, ils sont d'une proximité totale et intégrale. Donc il faut respecter en fait la psychologie aussi des victimes et faire évoluer notre législation.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces paroles. Bon, je vous rappelle, vous êtes Madame Clémence Badeau, co-autrice du livre intitulé « Le silence de Bétharam » paru le 24 avril 2025 et disponible dans vos librairies, j'imagine.
Vous avez dit sur
la fond, oui. Michel Lafond.
Merci beaucoup.
Merci à beaucoup. Vous. Au revoir.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.
Tout de suite, le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Alors le Flash Info, c'est avec Rania. Bonsoir Rania.
Bonsoir Francesca, bonsoir à tous. Vladimir Poutine dispose de 50 jours. Donald Trump donne 50 jours au chef du Kremlin pour mettre fin à la guerre avec l'Ukraine qui dure maintenant depuis 3 ans et demi. Il menace même les alliés de la Russie de sanctions allant jusqu'à 100% de droits de douane si aucun accord n'est pris entre Moscou et Kiev. Tandis que le patron de l'administration américaine va lui livrer plusieurs armes dites patriotes à Zelensky. L'Europe est également la cible de Donald Trump. 30% de droits de douane sur les produits européens dès le 1er août prochain. La Commission européenne rétorque avec des représailles commerciales à 72 milliards d'euros. Moment de vérité pour François Bayrou. Le Premier ministre français va dévoiler son plan d'économie 2026 visant 40 milliards d'économies et une baisse de la dette nationale. À l'Assemblée, la censure et les premières lignes d'opposition semblent d'ores et déjà se dessiner, notamment chez LFI et le Rassemblement National. François Bayrou ne semble pas bénéficier de grand soutien et d'alliés, son socle est plus friable que jamais. Tour de France, après une deuxième étape plus que dense, c'est Lenny Martinez qui endosse le maillot jaune. Après un début de tour compliqué entre les cols du Puy-de-Dôme et le Mont d'Or, le cycliste rejoint son grand-père qui lui aussi a gagné la course en 1978 à Paris. Accord historique pour la Nouvelle-Calédonie. Après les émeutes que le pays a rencontrées l'été dernier, le territoire français gagne enfin son indépendance et son propre État. Suite à plusieurs jours d'assemblée entre les élus locaux et le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, l'accord Bougival a été trouvé et promet la nationalité calédonienne à ses habitants et sera inscrit dans la Constitution de la République française. Un pacte de refondation économique et financière est également prévu. Enquête pour éviter les drames. Après le crash d'un Boeing ayant fait des centaines de morts le mois dernier, l'Inde ordonne l'inspection des interrupteurs en carburant de l'ensemble des Boeing présents sur son sol. En Syrie, des affrontements entre communautés druzes et bédouines ont fait plusieurs morts depuis la nuit dernière. Les autorités ont envoyé des forces dans la région pour tenter d'apaiser ces tensions. Espagne, depuis maintenant 3 nuits, des émeutes ont lieu dans le pays contre les émigrés. À l'origine de cela, l'agression par 3 hommes, dont 2 issus de l'émigration d'un retraité. Depuis, plusieurs passants immigrés ont été insultés et sont victimes d'insultes racistes et de violences. Des groupes ultranationalistes ont introduit les manifestations et sèment le trouble dans les villes de l'est du pays, dans lesquelles l'extrême droite fait ses meilleurs chiffres.
Tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Camille Yembe avec le titre Coup de soleil.
Quelques coups de soleil sur mes pommettes en été. Quelques coups de soleil. Quelques
sur dans le tiroir. L'hiver s'installe en tout l'appart sur mon visage. Est-ce que nous deux ça se sépare? J'aimerais qu'on l'attrape. Quelques coups de soleil. De soleil. Quelques coups de soleil. Il faut. De soleil. Rien dans les poches, rien dans la tête, on s'est connu aussitôt. Une heure du matin, dans le caisson s'est mélangé la peau. J'aurais voulu que ton soleil.
Alors, nous venons d'écouter Camille Yembe avec le titre Coup de soleil. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors, pour le Zoom, on accueille donc l'association Rebond, le groupe local de Bois d'Arcy. Et nous sommes avec Mayra et Asia, deux référents de l'association. Bonsoir. Et l'interview, ce sera avec Marius. Bonsoir Mayra, et bonsoir Asia.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, on entend ?
Comme Francesca vient de l'expliquer, vous êtes l'association Au Rebond. Donc votre mission, offrir des cours de soutien scolaire à des personnes détenues grâce à l'engagement d'étudiants bénévoles. C'est bien ça.
Exactement.
Et donc nous avons normalement, si on n'a pas de problème technique, aussi la chance d'avoir un ancien détenu. Mais je ne suis pas sûr que ça marche très bien en régie, on va voir. Okay. Qui lui a même bénéficié de l'aide de l'association et qui va nous partager son expérience si... On n'a pas de problème pour communiquer avec lui. Et donc, pour commencer, parce que j'ai présenté assez brièvement, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association plus en détail et notamment, pourquoi pas, nous parler de sa création parce que c'est tout récent.
Exactement.
Okay. Alors, l'association Rebond, donc réseau d'étudiants bénévoles organisé nationalement, c'est vrai qu'elle a été créée récemment et plus particulièrement par les anciens du Génépi. Donc, est-ce que vous connaissez le Génépi ?
Non, dites-nous.
Donc le Génépi, c'était une association qui intervenait en prison. C'était une association étudiante également. Et le problème, c'est qu'elle est devenue abolitionniste. Donc elle s'est autodissoute le 2 août 2021. Mais c'est vrai que les anciens du Génépi, du coup, étaient assez nostalgiques de ces interventions. Et ils ont trouvé que c'était dommage de stopper les actions, les interventions en détention. Donc ils ont créé... une nouvelle association qui s'appelle les Anciens du Génépi et de Rebond. Donc voilà.
D'accord. Et pourquoi ce choix Rebond ? Parce que forcément, il y a chaque lettre signifie quelque chose, mais pourquoi le mot Rebond au final ?
Bah, ça a plusieurs sens en soi. Le fait de rebondir, donc permettre la réinsertion sociale aux détenus, mais aussi Rebond parce que c'est la recréation, on va dire, la continuité de l'association des Anciens du Génépi. Donc Rebond.
La réinsertion quoi de l'association.
Et oui, et donc, si vous voulez prendre la parole aussi, pourquoi vous avez voulu opter pour cette réinsertion ?
C'est pas question d'opter pour la réinsertion, c'est une question de... alors, si on fait partie justement de cette association-là, oui, effectivement, c'est pour permettre aux détenus une réinsertion absolue. L'objectif, dans tous les cas, primaire de la participation de cette association-là, c'est une réinsertion pour les détenus et uniquement... une réinsertion pour les détenus.
Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de concrétiser tout ça ?
J'aimerais juste rajouter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne la réinsertion, il y a une réinsertion, enfin, on œuvre pour la réinsertion académique, donc de par des soutiens scolaires, de par un accompagnement, par exemple, aux épreuves du baccalauréat, même du BTS. Mm-hmm. Mais c'est aussi une réinsertion dans le monde professionnel. Donc, nous, c'est vrai que le groupe local de Bois d'Arcy, on donne aussi des cours de langue, mais on a d'autres projets qu'on va élaborer avec l'administration pénitentiaire, on espère. Donc, par exemple, des entretiens, aider à faire des CV, des sortes d'ateliers, etc. On avait un membre du conseil d'administration, Mathieu, qui n'a pas pu être là avec nous, mais qui avait pour projet de mettre en place des cours d'éloquence. Donc, voilà, le projet est vraiment axé et sur le monde professionnel et le monde académique. Donc, ça touche vraiment tous les profils.
Et comment ça se passe concrètement, justement, ces cours de soutien que...
Ces interventions en détention. Ouais. Alors, on intervient exactement une fois par semaine selon les emplois du temps des étudiants, parce qu'il faut savoir, c'est des étudiants qui sont dans les études supérieures, Maïra et moi. Donc Maïra, elle est en études de sciences politiques et moi-même, études de droit. Donc c'est vrai que l'emploi du temps, il est assez conséquent pour les personnes qui, enfin les étudiants qui étudient dans les facultés. Le meilleur, c'est d'intervenir une fois par semaine et d'avoir une certaine stabilité avec le détenu. Donc on a un détenu selon les besoins. Par exemple, si un détenu il a besoin de faire des cours de français, des cours de maths, etc. Ou des cours de droit, peu importe en fait les matières auxquelles il a besoin après sa réinsertion professionnelle ou même dans la société. Pour ma part, par exemple, je parlais de mon expérience, j'ai eu un détenu qui avait besoin de cours d'anglais. J'ai eu un baccalauréat spécialisé en AMC, anglais monde contemporain. Donc j'étais apte à faire des cours d'anglais avec mon détenu. Donc il avait besoin de ça. On a des matières qui nous sont données pour pouvoir donner des cours aux détenus. Donc c'est, comme j'ai dit, une fois par semaine, 2 heures maximum, et on échange. Ça peut être des échanges professionnels, ça peut être des échanges aussi moraux. Tout dépend en fait des besoins du détenu. Nous, on est vraiment là pour la réinsertion, sa réinsertion, uniquement pour la réinsertion.
D'accord. Après, on n'est pas jeté dans la nature non plus. Oui, oui. On a deux formations, une qui est dispensée par l'association. Donc, il nous explique un petit peu le fonctionnement, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire, comment ça va se passer. Parce qu'on a des interdictions. Par exemple, oui. On nous a demandé de ne pas leur demander pourquoi ils étaient rentrés en détention. Et ensuite, on a une formation qui est dispensée par l'administration pénitentiaire. Mm-hmm. Donc, c'est la formation Optime. Et voilà, donc on n'est pas jeté à la nature comme ça, il y a quand même un encadrement.
Oui, il faut bien préciser qu'on est formé avant de... Oui, c'est vrai qu'on ne nous jette pas comme ça dans les parloirs. On est formé, c'est très sélectif parce qu'ils font ça aussi au profil. Si le profil il est sérieux, ambitieux, engagé, parce que c'est une certaine responsabilité. Lorsqu'on est responsable d'un détenu, il faut respecter l'emploi du temps parce qu'il ne faut pas dire à un détenu « je serai là » temps et à telle heure et à la fin on ne se présente pas. C'est vraiment un engagement, une responsabilité et voilà, donc on est formé, tout est bien encadré par l'administration, donc Maïra et moi nous sommes les référentes, donc on a une certaine responsabilité pour cette association là, donc oui, il faut le mentionner.
D'accord, et j'ai entendu dire que notre souci technique était réglé, donc normalement, okay. Si vous nous entendez bien, nous avons la chance d'avoir en notre compagnie un ancien détenu qui est justement à bénéficier des services de votre association. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, tout à fait. Bonjour toute l'équipe.
Bonjour
tout
le monde. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous faire part de votre expérience avec l'association?
Oui, tout à fait. Donc je me présente, Yannick Deslandes. Moi, je suis un ancien détenu. J'ai passé 22 ans de ma vie en prison, donc sur différentes condamnations. J'ai rencontré, alors au début, avant Rebond, c'était les anciens du Génépi. Donc Rebond ont pris la relève. Hein, c'était des étudiants qui venaient de manière bénévole pour apporter de l'aide aux personnes incarcérées. Donc les toutes premières fois où j'ai rencontré quelqu'un du Génépi, il faut savoir, moi, quand je suis rentré en prison, je ne savais ni lire ni écrire. Donc au départ, j'ai commencé à prendre des cours par correspondance, mais forcément, je manquais énormément d'assurance. Et lorsque j'ai commencé à faire mes premiers courriers administratifs pour préparer ma sortie, j'avais demandé à avoir une aide, celle de l'écrivain public qui était un des étudiants du Génépi. Donc quand j'ai rencontré cette étudiante qui a commencé à lire mes courriers, elle m'avait dit « mais en réalité, t'as juste absolument pas besoin de moi, ils sont super bien écrits tes courriers. Enfin, » J'ai plus l'habitude de voir des gens qui ne savent pas du tout lire, pas du tout écrire, parce que c'était mon cas quelques mois auparavant. Donc c'est vrai que d'entendre ces mots-là, déjà, ça m'a énormément... Ça m'a donné énormément de confiance en moi dans l'avancement en tout cas que j'avais fait de cet apprentissage. Donc c'était vraiment un premier grand encouragement en tout cas dans la préparation de ma sortie. Et ensuite, donc du coup, j'ai entendu qu'il y avait des étudiants du Génépi qui intervenaient aussi pour proposer des activités. Donc je me suis inscrit dans ces activités. Alors il y avait une aide aux cours, à l'enseignement qu'on pouvait suivre les uns les autres. Donc moi, comme je suivais des cours par correspondance, donc cette aide, elle était hyper importante, elle était vraiment la bienvenue. Et il y avait également des activités... des activités, un peu de loisirs, mais pour nous, quand on est enfermé, c'était déjà un véritable bol d'air. C'était un moment où on pouvait se retrouver en tant qu'être humain et non plus comme un numéro d'écrou. C'était un moment où on pouvait avoir des conversations autres que tout ce qu'on pouvait avoir, que ce soit en cours de promenade, que ce soit avec les avocats, que ce soit avec les surveillants de prison. Là, on ne parle plus de prison, on ne parle plus de condamnation, on ne parle plus de délit, on ne parle plus de durée de peine. Là, on parle vraiment de tout, de la vie de tous les jours. C'était un véritable bol d'air. C'était une petite lucarne vraiment ouverte sur la liberté. Et c'était vraiment quelque chose de nécessaire dans notre quotidien. C'était vraiment un petit soleil, en fait, dans ce paysage sombre qu'on vivait au quotidien.
D'accord, merci beaucoup pour votre témoignage. Désolé, le temps file. Est-ce que, pour conclure très rapidement, est-ce qu'il y a moyen... on pouvait vous suivre sur les réseaux
Oui, donc on peut me suivre sur les réseaux, soit @au-delà-des-murs, ou alors sur LinkedIn à Yannick Deslandes. Et juste pour finir, grâce à Rebond, je suis retourné en prison très récemment pour pouvoir témoigner devant 60 détenus. Et ça, c'était vraiment un moment exceptionnel et extraordinaire.
D'accord, merci beaucoup.
Merci à tout le monde.
Pour ce court échange, ce fut rapide mais intense.
Merci beaucoup et merci à Rebond, à tous les étudiants bénévoles. Merci à toute l'équipe.
Merci à vous, merci pour votre témoignage. Merci Mayra, merci Assia.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Je vous en prie. Et tout de suite, chronique de Fabien.
La matinale de 19h.
Bonjour, et ben moi je vais vous parler de chroniques insolites comme à chaque fois ou quasiment. Et j'en ai encore trouvé un paquet. On va commencer par des artichauts comme s'il en pleuvait. Et ça se passe à Envic dans le Finistère. C'était le dimanche 13 juillet 2025 lors du championnat du monde de lancer d'artichauts. Le principe est d'apparence assez simple. Les compétiteurs s'allient en duo. L'un doit lancer un maximum d'artichauts en une minute dans la hotte de son partenaire qui est situé à 11 mètres de lui durant une minute. Organisé par le Pays de Morlaix Poker Club depuis 9 ans, ce championnat du monde pour le moins insolite attire chaque année des athlètes chevronnés, mais aussi des curieux venus assister aux exploits. Le record de cette épreuve farfelue impressionne 72 artichauts dans la hotte en une minute. Et puis, lors du Jockey Fest, le plus grand festival équestre du Pérou, une course pour le moins originale s'est disputée en juin dernier. 16 jockeys se sont élancés sans cheval. C'est donc à pied, en courant, que les participants ont parcouru les 100 mètres de l'hippodrome de Monterico. Le 1 s'est finalement imposé devant le 2 et le 16. Tous se sont ensuite congratulés, tout sourire. Car oui, cette course était bien prévue sans chevaux. Sur X, la vidéo de cette course improbable a été vue plus de 1,5 million. Les internautes n'ont pas manqué de réagir. Le but a été atteint. Cet événement insolite avait pour but de faire découvrir le sport équestre à la nouvelle génération. Et puis une série de vidéos postées sur TikTok a fait le buzz ces derniers jours et cumule plus de 3 millions de vues. Un randonneur a été surpris dimanche dernier par une vache dans les Hautes-Pyrénées. L'animal a chargé en direction des promeneurs. Le jeune homme n'a eu d'autre choix que de se réfugier sur un pylône électrique. Dans les vidéos partagées sur réseau social, on peut voir la vache, très agacée, continuer de gratter le sol et de beugler tout en fixant le randonneur. Et pour cause, elle tentait en réalité de protéger son bébé. Sous les hautes herbes cachées, il y avait son veau qui était au pied du pylône. Mais l'attente a été très longue. Le randonneur a finalement passé près de 2 heures perché sur le pylône en plein soleil. Et puis enfin, pour terminer, on va parler des schtroumpfs pour changer. Et si vous quittiez le monde réel pour plonger dans l'univers bleu et magique des schtroumpfs, c'est très à la mode. À l'occasion de la sortie du film Les Schtroumpfs, une expérience Airbnb Schtroumpf inédite vous propose de devenir schtroumpf le temps d'une demi-journée. C'est pas un parc d'attraction ni une simple animation touristique. C'est une véritable bulle hors du temps entre immersion enfantine et folie douce.
Merci beaucoup Fabien pour cette chronique actu. Et tout de suite, c'est le deuxième zoom.
Le zoom dans la matinale de 19h.
Alors, notre deuxième zoom avec notre invitée Ophélie Lodeisk. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien. Bonsoir. Ophélie, vous êtes chargée de la communication et des relations presse pour l'édition 2025 du festival Beat and Beer. Et pour cette interview, ce sera Anaïs qui va le conduire. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Francesca. Alors Bonsoir Ophélie. Mais merci d'être parmi nous. Donc, que pouvez-vous nous dire sur votre association et l'objet de votre festival de 2025?
Bah oui, avec grand plaisir. Bah, merci déjà de prendre le temps de nous écouter. Du coup, Beat & Beer, donc c'est un collectif qui a existé depuis, ça va faire 10 ans. On va fêter les 10 ans cette année de l'existence de Beat & Beer. Et c'est un collectif qui est principalement créé par des habitants de Malakoff. Du coup, où on met en avant et en lumière des artistes émergents. Et donc, c'est aussi bien des artistes de tout horizon. Donc, en général, on appelle ça plutôt des musiques hybrides parce qu'on n'a jamais d'artistes qui vont faire les mêmes sonorités. Donc, on a en général une programmation qui est très variée, très éclectique. Et du coup, chaque année, on était en itinérance donc sur la ville de Malakoff. Et donc, cette année en particulier, on arrive au parc Sélagnac. Donc, toujours à Malakoff, qui est un parc en même temps qui mélange un peu de la verdure, mais du béton, avec un style un peu qu'on ne trouve pas ailleurs. Grosso modo, c'est un peu ça.
D'accord. Et quels sont les tarifs pour réserver son billet pour ce festival?
Sur les tarifs, on a plusieurs tarifs de disponibles. Du coup, on a les early birds qui sont encore disponibles jusqu'au 20 juillet prochain et ils sont à 10 euros pour un jour et pour les 2 jours, ils sont à 14 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et le tarif solidaire aussi est à 18 euros pour un jour et à 28 euros pour les 2 jours. Et il y a toujours possibilité, voilà, de soutenir Beat & Beer et voilà, de rajouter un petit peu, parce qu'on reste un petit collectif avec peu de moyens et tout don est bon à prendre.
Et est-ce que des nouveautés dans ce festival seront-elles attendues? Si oui, lesquelles?
Oui, du coup, cette année, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour les 10 ans notamment. Donc, y a notamment une chasse au trésor qu'on a organisée. Donc, on a collaboré avec une architecte qui a fait une carte sensible de Malakoff et où on a retracé un petit peu tous les points où Beat & Beer a été dans Malakoff. Donc, on invite les gens qui sont plutôt en Île-de-France, en région parisienne, à venir trouver les petites mascottes qu'on a cachées dans la ville. Et ça permet aussi de redécouvrir et de se réapproprier en fait la ville, du coup, autrement et avec d'autres histoires. Donc, il y a des places à gagner, possiblement, si vous participez à la chasse au trésor. Et également, il y a une radio avec laquelle on a collaboré, donc qui s'appelle la radio Endorphine. Pareil, qui sera présente, en tout cas, sur le festival pour interroger en fait, les personnes sur place. Donc, c'est une autre manière aussi de créer du lien et de faire des rencontres aussi. Et au niveau de la programmation, il y a plein d'artistes différents à découvrir, comme d'habitude. Et également, il y aura des massages, du maquillage et plein d'autres animations de disponibles. Et de la sérigraphie aussi, pardon.
Et quels sont les artistes ou groupes attendus pour cet événement?
Alors, je vais peut-être pas tous vous les citer, mais il y a une quinzaine d'artistes assez variés qui vont venir sur le festival. Mais si je pourrais vous en citer certains, par exemple, il y aura Simon Rein, qui est un artiste jordanien qui est sur une musicalité plutôt calme et douce, par exemple, pour le samedi après-midi, où ça commencera dès 14h. Donc ça pourrait être un peu un temps plus calme avec un instrument qui est ancestral et où du coup il a intégré des capteurs à cet instrument qui est un instrument qui est mentionné dans les Mille et Une Nuits. Et du coup, il ouvre en fait avec les champs des possibles au service d'une musique entre poésie et futurisme. Et pour contrebalancer, je donnerai l'exemple de Baby Berserk, qui est plutôt un groupe qui mélange du disco, punk, acid house, et qui vient plutôt avec un univers très new-yorkais, underground, qui vient nous secouer. Donc voilà, il y a plein de variations d'univers du coup pendant toute la programmation sur ces deux jours.
Oui. Est-ce que des styles musicaux seront mis en avant ou seront-ils diversifiés?
Oui, en réalité, c'est vraiment plutôt une programmation qui est très diversifiée. Après, moi, personnellement, je ne suis pas dans le pôle programmation qui a fait le choix de tous ces artistes, mais en soi, sur les réseaux sociaux de Beat & Beer, il y a possibilité de trouver tous les artistes qui seront programmés, et il y a de quoi se faire un bon petit suspense pour savoir ce qu'il va y avoir le jour J.
Et quels sont les collaborateurs et partenaires présents pour cet événement?
En plus de la radio, vous
disiez qu'il y avait la radio Endorphine en fait, qui était avec vous.
Oui, c'est ça. Oui. Il y aura la radio Endorphine. Après, les autres partenaires, du coup, il y aura potentiellement des. Enfin, en soi, cette partie-là, pareil, au niveau des partenaires, j'ai pas tous les éléments parce qu'ils sont encore en train de se finaliser. Mais en soi, il y aura pas mal d'informations qui vont arriver les semaines à venir sur les réseaux sociaux de Beat & Beer.
D'accord. Et enfin, quels conseils donneriez-vous à un premier visiteur qui arrive dans le festival?
Ouais, bonne question. Ouais. Ce que je donnerais comme conseil à un visiteur de Beat & Beer, qui visite Beat & Beer pour la première fois, je pense que je lui dirais de se laisser porter par l'énergie de Beat & Beer, parce qu'en réalité, c'est un festival qui est très bon enfant, qui est volontairement assez intimiste, tout est fait à la main. Enfin, du coup, il y a un esprit où on peut se parler, il y a de la place pour danser. Donc, de se laisser aller et de ne pas hésiter à aller à la rencontre des autres. Du coup.
Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous avez un Instagram et la page de... une page
Oui, c'est ça. Vous pouvez nous trouver sur Instagram. Donc... le at Beat & Beer, donc Beat & Beer comme la bière. Et y a toutes les informations possibles dessus qui va rediriger vers leur site internet, ou même de pouvoir récupérer la carte pour faire la chasse au trésor, qui est disponible aussi en bio.
D'accord. Instagram. Merci. Alors, je rappelle quand même, donc les dates, c'est le vendredi 5 septembre. C'est ça
le vendredi et le samedi,
donc le 5 septembre de 18h à 1h du matin, et le samedi de 14h à 1h du matin, donc pour les 10 ans du festival Beat & Beer. Et ce sera au parc Léon Salagnac, rue Hoche, à Malakoff.
Exactement.
Merci beaucoup, Ophélie, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et certainement au festival, du coup. Au revoir.
Bientôt,
au revoir, Ophélie.
Merci, au revoir.
Au revoir. Tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter World Brain avec le titre Minute Papillon, un des artistes du festival, donc justement de Beat & Beer. Thank you.
Écoute. C'est lui.
Nous venons d'écouter donc World Brain avec le titre Minute Papillon. Et tout de suite, on retrouve Gauthier pour sa chronique.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Alors, dans l'épisode d'avant des enquêtes de l'inspecteur Achille Tomate.
Un petit problème. Des suspects, un crime, une enquête, un impair beige, une console qui a fondu, un fromage qui est resté intact car il ne faisait aucunement partie de l'histoire. Mais c'est une superbe occasion pour présenter le sponsor de l'épisode d'aujourd'hui, le camembert de la chialade du prêtre. Avec la chialade du prêtre, c'est plus de 40% de matière grasse qui se retrouve au milieu de votre fromage, sans même que vous vous en soyez rendu compte. Un fromage bien Géchard, comme vous l'aimez, qui fera de vous la star du diocèse. 40%. Sur votre chemin, toutes les tonsures se retourneront. De 1, parce que vous puerez sa mère, et de 2, parce que vous serez également super stylé. 50% de réduction sur la chialade du prêtre si vous présentez votre carte de fidélité. Derrière cette vitre, 4 accusés. Une seule personne est coupable d'avoir fait fondre la console et stopper la diffusion le soir de la dernière de la matinale le 26 juin dernier. Est-ce Christian, qui faisait la chronique humour ce jour-ci, dont voici un extrait ?
Bon, c'est sûr que le gars, avec le cul qu'il avait, il était forcément bordé de nouilles, hein !
Christian qui, clairement, a fait monter la température de la pièce. Non pas parce qu'il était très chaud avec ses blagues, mais parce que faire des blagues comme ça, c'est très chaud. Est-ce Sandra qui faisait l'interview ? Et donc, monsieur Hardisson, qu'est-ce que vous diriez si c'était votre dernière interview ce soir ? Sandra qui, après les nouvelles de ces derniers jours, est désormais suspecte dans 2 affaires en même temps. Et c'est quand même beau d'être touche-à-tout comme ça. Est-ce Jean-Jérôme qui faisait l'animation ?
Et nous sommes le 26 juin, c'est la dernière émission de l'année, j'aurais peur à la foutre moi. Je suis venu, j'ai rien préparé, ça va être triste ce soir.
Jean-Jérôme qui... Putain, Jean-Jérôme, on a déjà eu l'air comme sur le dos. Bordel, rangez cette bouteille, bon Dieu. Ou bien, le coupable serait-il notre dernier suspect? Quoi? Achille? Achille Tomate? Mais c'est moi? Mais c'est pas possible. J'aurais pas pu faire une chose pareille, non. Non, je transpire. Je suis pas coupable, je vous jure. C'est moi, j'ai juste une sudation extrêmement fluide. Je vous assure que je suis pas coupable. Arrêtez.
Une affaire rondement menée, Achille Tomate. Vous allez passer du temps à l'ombre, c'est moi qui vous le dis. Et vous pourrez remercier El Comador. Ciao, détective.
C'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à nos invités Clémence Badeau, Ophélie Lodowski et Assia et Mayra, les référents de l'association Rebond. Merci à toute l'équipe. Merci Marius pour la programmation et coordination. Et en plus, c'était sa dernière. Merci beaucoup. Merci de nous avoir supportés. Le Flash Info, c'était avec Rania. Merci Anaïs pour le Zoom, Gauthier et Fabien pour les chroniques. Merci Simon pour la réalisation. On revient à la rentrée, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter tous nos podcasts. Très bonne soirée sur le 93.9 et bonnes vacances.